CILSFM, la seule radio communautaire en français de la côte ouest canadienne.
Bonjour Victoria, mardi 22 août ou mercredi 23 août en rediffusion matinale, le débrief débute à l'instant avec vos revues de presse et l'interview du jour. C'est Alexis Gagnon au micro, merci de votre fidélité au 107.9 FM. Notre invité aujourd'hui, en passant, est connu des auditeurs. Il s'agit d'Adrien Blanc, revenu d'un stage en journalisme à Montréal et préparant actuellement une nouvelle émission matinale quotidienne pour le retour de la fête du travail. Je m'entretiendrai avec Adrien en seconde partie d'émission. Bonne écoute à tous. Le débrief, édition des 22 et 23 août. Alexis Gagnon au micro. Voici votre revue de presse internationale. On débute tout de suite dans le portail RFI à l'adresse rfi.fr. Attentat en Catalogne, les quatre suspects inculpés d'assassinat terroriste. En fin d'après-midi, le 22 août, les quatre hommes ont été inculpés d'assassinat terroriste. La cellule djihadiste tenue pour responsable des sanglants attentats de Catalogne revendiqués par le groupe État islamique préparait bien une attaque de plus grande envergure, a confirmé un suspect devant le juge d'instruction, déclaration qu'il avait déjà faite lors de sa garde à vue. Le suspect a également indiqué que l'imam de Ripoll était le cerveau des attaques. Donc vous trouverez tous les détails suite à l'attentat, aux attentats pluriels de Catalogne le week-end dernier. C'est sur le portail RFI. Autre attentat attribué à l'État islamique en Afrique récemment, Burkina Faso, levée des corps des victimes de l'attentat de Ouagadougou. Un article qui paraît dans le portail de l'agence France-Presse, l'AFP. Les familles des victimes de l'attaque du restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou ont procédé jeudi à la levée des corps à la morgue de l'hôpital en périphérie de la capitale burkinabé, quatre jours après cet attentat qui a choqué le pays. 18 personnes, 9 burkinabés et 9 étrangers ont péri dimanche soir sous les balles de deux assaillants présumés djihadistes alors qu'ils dînaient dans un café-restaurant halal de la principale avenue de Ouagadougou. Pour les besoins de l'enquête, les dépouilles ont été autopsiées dans l'hôpital. Alors, ce sont les dernières nouvelles à propos de cet attentat commis en Afrique, au Burkina Faso, à Ouagadougou. Autre tragédie naturelle cette fois, enfin sans lien terroriste, mais en Afrique toujours, les inondations en Sierra Leone, peut-être en avez-vous entendu parler, elles ont fait, ces inondations, 499 morts. Une nouvelle paraît dans le fil de l'agence France-Presse à ce sujet, les inondations et glissements de terrain qui ont touché Freetown en Sierra Leone dans la nuit du 13 au 14 août ont fait 499 morts, dont 156 enfants, a-t-on appris dimanche à la morgue centrale de la capitale Sierra Leonaise, alors que les secouristes sont toujours à la recherche de corps ensevelis. Alors une tragédie malheureusement qui n'a pas été relayée dans les médias. Ce sont les attentats qui ont pris l'essentiel de l'avant-plan médiatique. Cette nouvelle aurait mérité une plus grande couverture. Rappelons donc ces inondations survenues en Sierra Leone. Elles ont fait environ 500 morts. Vous trouverez ça dans le fil de l'agence France-Presse, l'AFP. On va se transporter dans le portail de RFI Radio France Internationale à l'adresse rfi.fr. Après 16 années de guerre, les nouveaux projets afghans de l'Amérique de Donald Trump. C'est signé par le correspondant Joshua Roberts. Le président des États-Unis a annoncé lundi 21 août son plan pour l'Afghanistan, où stationnent encore 8400 soldats américains sous la bannière de l'OTAN. Depuis 2001, l'opération a coûté 714 milliards de dollars. Le candidat Trump, à l'époque de la campagne électorale l'année dernière, semblait pencher pour un retrait du dernier contingent américain, mais il ne s'est pas privé pour critiquer la gestion des présidents Bush et Obama. Il a revu ses plans, estimant qu'un retrait créerait un vide dangereux, donc un virage à 180 degrés de la part de Donald Trump, qui était d'abord en faveur, il y a encore moins d'un an, d'un retrait de l'Afghanistan. Il est maintenant plutôt en faveur d'une hausse de l'implication américaine dans ce pays du Moyen-Orient. C'est sur une base militaire de Washington, peut-on lire dans cet article de RFI, que le président américain a choisi d'annoncer sa stratégie en Afghanistan, théâtre d'une guerre qui dure depuis plus de 16 ans et que les États-Unis n'ont pas pu gagner jusqu'à présent. En rupture totale avec la politique de Barack Obama, qui s'était engagé dans un retrait progressif dans ce conflit qui est tout de même le plus long de l'histoire des États-Unis, Donald Trump a renouvelé son engagement contre le terrorisme. Alors, la guerre contre le terrorisme a-t-elle du succès, cette guerre contre le terrorisme? Plusieurs observateurs croient que non. Et justement, à ce propos, on a dans le portail Orient 21, que l'on retrouve à l'adresse orient21.info. Et le 21 s'inscrit en chiffres romains XXI, donc orient21.info. On a un article justement sur l'échec de cette guerre contre le terrorisme, un article de fond de plusieurs paragraphes signé par Marc Cher Le Parrain. Et c'est une analyse lucide, éclairée des dernières années et de l'interventionnisme américain au Moyen-Orient. Ça s'intitule « Tant que l'Occident fabriquera des terroristes, il y aura des attentats ». Le titre donne déjà la couleur. Je vous lis quelques lignes de cet article de fond. « Avant-hier, une bombe explosait à Bagdad. Hier, c'était des tueurs qui sévissaient à Londres. Aujourd'hui, une voiture s'attaque à la police à Paris. Et demain, point d'interrogation ?» 15 ans après le déclenchement de la guerre contre le terrorisme, entre guillemets, menée par les États-Unis et relayée par la plupart des pays occidentaux, dont la France et le Canada, poursuit l'auteur, on compte de plus en plus d'attaques qualifiées de terroristes. N'est-il pas temps pour l'Occident de s'interroger sur ses responsabilités, sur l'inefficacité avérée des solutions policières et militaires contre le djihadisme et sur sa responsabilité, la responsabilité de l'Occident, dans la fabrication des terroristes? C'est ce que demande l'auteur de cette tribune dans le portail orient21.info. Je vous lis encore quelques lignes de cet article de fond. En Europe, depuis leur apparition en 2014, au lendemain du début de la campagne aérienne de la coalition dirigée par les États-Unis contre l'organisation État islamique, les attentats qui lui sont liés ont fait à ce jour 331 victimes, dont 239 en France, 37 au Royaume-Uni, 36 en Belgique, 12 en Allemagne, 5 en Suède et 2 au Danemark. En Irak, les attentats commis par l'État islamique font en moyenne 1500 victimes chaque année au sein de la population civile, en dehors des combats qui l'opposent à l'armée irakienne et à ses alliés. Dans les autres pays arabo-musulmans touchés par l'organisation État islamique et ses filiales, même si le bilan est inférieur, il s'agit néanmoins de plusieurs centaines de morts par an, de la Tunisie à l'Afghanistan, en passant par le Yémen. Depuis son lancement à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la guerre contre le terrorisme, comme l'a appelé George W. Bush, a fait entre 500 000 et 1 million de victimes, même si elle a aussi et surtout servi cette guerre de prétexte aux ambitions idéologiques et économiques des néoconservateurs américains alors au pouvoir. Depuis le 11 septembre 2001, on dénombre 544 décès en Europe par attentats djihadistes et 111 aux États-Unis, soit un total de 655. C'est-à-dire que pour 1000 victimes de cette guerre en Orient, dont quelques-unes seulement sont des djihadistes, il y a une victime en Occident. Alors il y a un fossé énorme, on le voit, et c'est ce que s'attache à mettre en relief l'auteur de cette tribune qui développe sur de nombreux paragraphes. En Occident, il signale le leadership de Jeremy Corbyn, qui est le chef du parti travailliste britannique, le Labour, un chef de parti qui a un discours lucide justement sur cette soi-disant guerre contre le terrorisme qui ne fonctionne pas du tout. Et il y a une citation de Jeremy Corbyn, cet homme politique britannique, dans cet article. Je vous la lis. De nombreux experts, déclare Jeremy Corbyn, y compris les professionnels de nos services de renseignement et de sécurité, ont souligné les liens entre les guerres que notre gouvernement a soutenues ou faites dans d'autres pays et le terrorisme ici même chez nous. Cette évaluation ne réduit en rien la culpabilité de ceux qui attaquent nos enfants, mais une compréhension bien informée des causes du terrorisme est une partie essentielle d'une réponse efficace qui protégera la sécurité de notre population en combattant plutôt qu'en alimentant le terrorisme. Donc Jeremy Corbyn, en faveur de méthodes qui fonctionnent dans la guerre au terrorisme et non de jeter de l'huile sur le feu comme le font les interventions militaires un peu partout au Moyen-Orient. Donc je vous rappelle le titre de cette tribune signée par Marc Cher Le Parrain dans le portail orient21.info. Tant que l'Occident fabriquera des terroristes, il y aura des attentats. Et dans ce même portail orient21, signalons aussi cet article sur la crise qui oppose dans le golfe Persique le Qatar à l'Arabie Saoudite. Et c'est un article qui appelle à une collaboration plutôt qu'à une opposition dans le golfe arabo-persique. Le titre « La coopération est-elle possible pour l'exploitation des champs d'hydrocarbures dans le golfe arabo-persique ?» La crise entre le Qatar et ses voisins a mis en lumière les tensions dans le golfe arabo-persique qui ne se limitent pas, ces tensions, à l'hostilité entre Téhéran et Riyad. Une coopération pour l'exploitation des hydrocarbures pourrait contribuer à apaiser les crises régionales. L'auteur Pierre Fabiani donc appelle à une approche multilatérale fondée sur le dialogue. Vous aurez ça dans le portail Orient 21 toujours. On va se transporter du côté de Mediapart, ce média indépendant que l'on trouvera à l'adresse mediapart.fr. L'Arabie Saoudite pourrait mettre un terme à la guerre au Yémen. C'est un article signé par le journaliste Thomas Cantaloube. D'après des emails qui ont fuité, écrit-il, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman souhaiterait s'extraire du conflit qui l'a déclenché et qui ne mène à rien, sinon à la multiplication des morts civiles, dont celle de nombreux enfants, comme le souligne un rapport de l'ONU. Cela fait plus de 2 ans que la guerre dure au Yémen et chaque nouveau mois qui passe allonge la liste des calamités qui s'abattent sur ce pays. C'est désormais le choléra qui y fait des ravages, faisant jeu égal avec les bombardements aériens en termes de mortalité, écrit l'auteur de cet article. Un rapport présenté le 18 août à l'ONU par le responsable des opérations humanitaires avance des chiffres effarants. Le choléra a tué 2000 personnes depuis avril et près de 500 000 malades seraient recensés. Par ailleurs, sur 27 millions de Yéménites, 16 millions n'ont pas accès à l'eau potable et 7 millions sont menacés de famine. Alors, si vous voulez approfondir dans cette information, c'est sur le portail Mediapart à l'adresse mediapart.fr. Je rappelle le titre. L'Arabie Saoudite pourrait mettre un terme à la guerre au Yémen, une guerre qui est menée en marge complète du droit international et l'Arabie Saoudite a commis de nombreux crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et il est utile de rappeler que l'Arabie Saoudite est un allié de l'OTAN, donc un allié du Canada et des États-Unis. Poursuivons cette revue de presse internationale en nous rendant du côté du journal Le Monde à l'adresse lemonde.fr. Un autre motif d'inquiétude sur la scène internationale, cette fois en Extrême-Orient, la crise de la Corée du Nord et de ses missiles intercontinentaux. L'article du Monde signé par Harold Thibault fait état de l'incroyable bond technologique de la Corée du Nord, un bond technologique qui a permis à ce petit pays d'acquérir une technologie de missiles qu'elle ne possédait pas jusqu'à récemment. Comment le pays est-il passé d'une série d'échecs dans ses tests d'un missile en 2016 à 2 tirs réussis sur une portée 3 fois plus longue l'année suivante, demande le journaliste du journal Le Monde. À quelques jours du printemps, le dirigeant Kim Jong-un assistait au test au sol d'un nouveau propulseur de forte puissance. Sur les photos officielles, le leader de 34 ans observait au loin une cuve fixée à flanc de colline crachant une longue flamme. Il évoquait alors la révolution du 18 mars. Alors, c'est le premier des tests de missiles intercontinentaux qui est relaté ici par l'auteur de cet article. Tests qui ont fini par réussir. La Corée qui a, comme l'indique le titre de cet article, réalisé un bond technologique énorme. Et ce bond technologique, bien sûr, inquiète la communauté internationale. Vous aurez ça dans le journal Le Monde, dans le cahier Asie-Pacifique. On va rester dans ce cahier Asie-Pacifique, toujours à propos de la Corée du Nord et de sa capitale Pyongyang, contre laquelle Washington veut imposer de nouvelles sanctions. Le Trésor américain, peut-on lire dans cet article du journal Le Monde, a désigné 10 entreprises et 6 individus accusés d'apporter leur aide financière à la Corée du Nord en important notamment du charbon. La détente est loin d'être acquise, peut-on lire. Les États-Unis ont pris mardi 22 août de nouvelles sanctions commerciales visant des entreprises et individus chinois et russes pour accentuer la pression sur la Corée du Nord, dont le programme nucléaire est au cœur de tensions entre Washington et Pyongyang. Vous aurez ça dans le journal Le Monde. Restons encore un petit peu sur le dossier de la Corée du Nord, un article qui peut faire rire, mais en même temps faire dresser les cheveux sur la tête. C'est de propagande nord-coréenne dont il est question dans cet article du journal Ouest France. Cet article décrit les vidéos de propagande de la Corée du Nord qui sont assez effrayantes. Et grotesque aussi en même temps. La Corée du Nord n'est pas réputée pour la subtilité de sa propagande, peut-on lire dans cet article de Ouest France. La Corée du Nord vient en effet de publier sur Internet une vidéo de 4 minutes dans laquelle elle menace les États-Unis des pires mots. C'est très kitsch et pas très rassurant, peut-on lire dans cet article. Une musique qui semble sortie d'une télésérie américaine des années 1980. Des images de tirs de missiles. Donald Trump qui regarde un cimetière hérissé de croix blanches. Les principaux leaders américains entourés de flammes. Quand la Corée du Nord se met à fantasmer en vidéo, cela donne un clip de 4 minutes très kitsch qui prêterait à sourire s'il n'était pas aussi belliqueux. Alors, si vous voulez visionner ce clip, vous pourrez le trouver sur le portail de Ouest France. Vous aurez une petite idée de l'extravagance de la propagande nord-coréenne. Propagande qui s'exprime à travers des vidéos apocalyptiques. On va revenir un instant dans les colonnes de Mediapart pour parler de violence policière aux États-Unis. C'est un article, en fait, qui est tiré du fil de l'agence Reuters. Plus de 1000 morts après avoir été immobilisés par un taser aux USA. Vous connaissez le taser, c'est ce pistolet électrique qui est utilisé par les autorités policières dans certaines juridictions. Plus de 1000 personnes sont mortes aux États-Unis après avoir été neutralisées par la police avec un taser, révèle l'agence Reuters après avoir étudié des comptes rendu de justice, des rapports de police, d'autopsie et autres documents publics. Le pistolet à impulsion électrique associé à la société Taser International Inc., devenu cette année Axon Enterprise, Reuters, l'agence de presse, donc, révèle que dans 9 cas sur 10, la victime n'était pas armée et qu'une personne neutralisée par un taser sur 4 souffre de troubles mentaux ou neurologiques. Donc, l'activation du taser expose à de graves dangers la victime. Et souvent, ces victimes, comme le précise Reuters, sont des personnes déjà fragilisées. Vous aurez cette nouvelle dans le fil de Reuters. Je rappelle le titre. Plus de 1000 morts après avoir été immobilisés par un taser aux USA. La revue de presse internationale se poursuit dans cette édition des 22 et 23 août. Une petite nouvelle repérée pour vous dans le cahier international du journal Le Monde, le plaidoyer du pape François pour l'intégration des réfugiés et des migrants. Le souverain pontife a publié un texte dans lequel il défend le regroupement familial, la libre circulation, le droit du sol et le respect des cultures d'origine. Le pape François est sorti de son relatif repos estival pour publier lundi 21 août un texte très engagé et politique en faveur des migrants et des réfugiés. Le pape y énumère notamment une série de droits qui devraient, à ses yeux, leur être mieux garantis par les États sur le territoire desquels ils se trouvent. Parmi les demandes du pape figure une offre plus libérale de visas humanitaires, des regroupements familiaux étendus, un octroi plus souple de la nationalité, un accès plus large à l'emploi, y compris pour les demandeurs d'asile, et davantage de possibilités de régulariser les sans-papiers. Alors, c'est un message qui s'adresse aux pays européens, mais peut-être aussi au Canada, qui fait lui aussi face à une vague de migrants actuellement. Autre nouvelle aperçue pour vous dans le journal Le Monde, l'Union européenne va enquêter sur le rachat de Monsanto par Bayer. La commissaire à la concurrence européenne, Margrethe Vestager, avait exprimé ses craintes de voir se dessiner une situation monopolistique en Europe. C'est tiré du fil de l'agence France-Presse, cette nouvelle. La Commission européenne a annoncé mardi 22 août l'ouverture d'une enquête approfondie sur le rachat du spécialiste américain des semences OGM, Monsanto, par le groupe allemand de pharmacie et d'agrochimie Bayer. Avec un montant de 66 milliards de dollars, la transaction annoncée en septembre 2016, il y a près d'un an, était l'acquisition la plus chère jamais payée par un groupe allemand. Cette acquisition doit toujours être approuvée par la Commission européenne, précise-t-on dans cet article. Et précisons que Monsanto, entre autres choses, est le fabricant d'un pesticide très controversé dans le monde entier. On va poursuivre cette revue de presse avec une nouvelle aperçue pour vous sur le site collectiveevolution.com. Une étude révèle que les grands groupes pharmaceutiques ont payé des médecins pour favoriser la prescription d'opioïdes. Ces opioïdes qui sont largement responsables à l'avènement de la crise sanitaire que l'on connaît un peu partout en Amérique du Nord et notamment en Colombie-Britannique. C'est une étude qui a été publiée par le American Journal of Public Health. Alors, c'est une étude très sérieuse qui met en relief les efforts des grands groupes pharmaceutiques pour s'assurer que les médecins prescrivent le plus grand nombre possible d'opioïdes à leur clientèle, à leurs patients. Une démarche qui est fortement critiquée par différents observateurs. Vous trouverez cet article intitulé « Study reveals Big Pharma paid doctors millions of dollars to push opioids ». C'est dans le portail collectiveevolution.com. Et c'est là-dessus qu'on va refermer la revue de presse internationale. Et dans quelques instants, on va entamer la revue de presse canadienne. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9, votre fréquence communautaire francophone dans la grande région de Victoria. On se retrouve dans quelques instants de l'autre côté de l'interlude musical. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief, édition des 22 et 23 août. Alexis Gagnon au micro. Merci d'être à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone. On va entamer cette revue de presse nationale en débutant avec une information à thématique francophone, si vous le voulez bien. C'est une actualité qu'on a aperçue dans le portail de TFO. TFO qui est la chaîne de télévision publique franco-ontarienne. On la retrouve à l'adresse tfo.org. Donc cette nouvelle francophone, fierté, Air Canada aurait dû aussi s'afficher en français. C'est le titre de cet article signé par le journaliste Étienne Fortin-Gauthier. La commissaire aux langues officielles du Canada est catégorique. Lors d'activités promotionnelles, Air Canada doit s'afficher et promouvoir ses activités dans les deux langues officielles dans toutes les régions du pays où cela s'impose. Le transporteur aérien ne l'a pas fait lors des célébrations de la fierté de Toronto en 2016 et l'entreprise devra corriger le tir pour respecter ses obligations en vertu de la loi sur les langues officielles, peut-on lire dans cet article de TFO. Au début de juillet 2016, Toronto vibrait au rythme des célébrations de la fierté, le plus grand événement du genre au Canada, rappelle le journaliste Étienne Fortin-Gauthier. Air Canada a décidé d'en profiter pour faire connaître son appui à la communauté LGBT. À cette occasion, un citoyen a tenté en vain d'obtenir des informations en français de la part de l'institution fédérale. Il s'en est plaint au commissariat aux langues officielles du Canada. L'affichage au kiosque promotionnel d'Air Canada était en anglais seulement. De plus, le personnel d'Air Canada à cette tente n'a pas fait l'offre active de service dans les deux langues officielles, peut-on lire dans une copie du rapport préliminaire obtenu par TFO. En réponse, Air Canada a fait valoir que le but de cette tente n'était pas de faire connaître ses produits et qu'aucun service aux voyageurs n'était offert. Par conséquent, Air Canada est d'avis que sa politique en matière de langues officielles et les procédures qui y sont prévues ne sont pas applicables dans ce cas précis. C'est la défense qu'a offerte Air Canada dans cette affaire. Au contraire, le commissariat aux langues officielles estime que le kiosque promotionnel est l'équivalent d'un bureau de transport aérien. Et considérant que Toronto compte plus de 5000 membres de la minorité francophone, Air Canada avait alors l'obligation de communiquer avec le public dans la langue officielle de son choix, affirme la commissaire aux langues officielles. Une intervention du commissariat aux langues officielles, intervention qui vise Air Canada. Vous aurez tous les détails dans le portail de TFO, la chaîne publique francophone de l'Ontario. C'est sous la plume du journaliste Étienne Fortin-Gauthier, en date du 22 août. Je vous parlais un peu plus tôt dans l'émission de la Corée du Nord. On a évidemment observé les développements de ce dossier ici au Canada, à Ottawa. Et justement, c'est une nouvelle qui fait le pont entre l'international et le national. Dans le fil de la presse canadienne, on apprend qu'un comité aux communes à Ottawa est convoqué pour discuter de la menace nord-coréenne. Un comité des communes tient mardi une rare réunion estivale pour discuter de la façon dont le Canada prévoit répondre à la menace que pose la Corée du Nord. Les conservateurs et les néo-démocrates ont demandé la semaine dernière à ce que les députés du comité permanent de la défense nationale soient convoqués afin de se pencher sur cet enjeu. Vous trouverez cette nouvelle dans le fil de la presse canadienne. On se transporte à présent en Nouvelle-Écosse, en restant toutefois dans le fil de la presse canadienne. Un article signé par le journaliste Keith Doucette. La Nouvelle-Écosse impose des conditions salariales à 75 000 fonctionnaires. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse promulguera une loi sur le travail pour imposer des conditions salariales à 75 000 employés de la fonction publique sans contrat de travail. Le premier ministre Stephen McNeill a déclaré que l'entrée en vigueur de la loi sur la durabilité des services publics est dans le meilleur intérêt des néo-écossais. La loi avait été adoptée en décembre 2015 pour assurer que des arbitres tiers ne rendent pas de décision qui dicterait au gouvernement les salaires de ses fonctionnaires. La mesure prévoit une progression des salaires de 3% sur 4 années. Ces salaires stagneront 2 ans, puis gagneront 1% pour la troisième année, 1,5% la quatrième et 0,5% au tout dernier jour du contrat. On reste encore un petit peu dans le fil de la presse canadienne. Justin Trudeau souligne le 75e anniversaire du raid de Dieppe. Un petit groupe de vétérans, de dignitaires et d'invités ont souligné mardi le 75e anniversaire du raid de Dieppe par une dernière cérémonie sous la pluie à Ottawa. La cérémonie a pris place au monument commémoratif de guerre du Canada sous une averse torrentielle. Le premier ministre Justin Trudeau a remarqué le temps pluvieux en rendant hommage aux soldats tués, blessés ou faits prisonniers lors de cette bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale pour les forces canadiennes. Dossier de l'énergie, un gazoduc passera à travers l'habitat de caribous menacés. C'est dans le journal Le Devoir. Alexandre Shields, journaliste au Devoir, nous informe que l'Office national de l'énergie, l'ONE, juge le projet Wynnewood Pipeline utile à l'intérêt public canadien. L'Office national de l'énergie a approuvé la construction d'un gazoduc qui doit empiéter sur l'habitat essentiel d'une population de caribous en voie de disparition. Un des commissaires qui s'était récusé de l'examen du pipeline Énergie Est était membre du comité d'évaluation de ce projet. Le gazoduc en question, nommé Wynnewood Pipeline, est en fait un projet d'expansion d'une partie d'un réseau de transport de gaz naturel important de la Colombie-Britannique, une province où la production de gaz de schiste est plus importante que jamais. Ce nouveau tronçon d'une longueur de 27 km vient d'être approuvé par l'Office national de l'énergie qui estime que celui-ci est utile à l'intérêt public canadien. Cette décision favorable à l'entreprise Spectra Energy est d'ailleurs définitive puisqu'en vertu de la loi sur l'ONE, celle-ci n'a pas à être approuvée par le gouvernement de Justin Trudeau. En Colombie-Britannique, toujours, cette nouvelle aperçue sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. À 2 semaines de la rentrée, les enseignants manquent en Colombie-Britannique. Un peu moins de 2 semaines de la rentrée des classes, des centaines de postes d'enseignants sont toujours à combler un peu partout dans la province, écrit Radio-Canada dans cet article. À titre d'exemple, la commission scolaire de Vancouver affichera 280 postes à temps partiel dès cette semaine. À Abbotsford, 90 postes à temps plein et à temps partiel ne sont toujours pas comblé, tandis qu'à Surrey, 200 postes d'enseignants sur appel sont à pourvoir afin de pouvoir remplacer durant l'année scolaire à venir. Le porte-parole de la commission scolaire de Surrey, Doug Strachan, dit que cette folie des embauches n'est pas nouvelle avec la croissance que connaît la ville en banlieue de Vancouver. Et Radio-Canada explique dans cet article que la pénurie à laquelle on assiste actuellement est en grande partie due à la création de nombreux postes au printemps dernier à la suite de la victoire des enseignants en Cour suprême de la Colombie-Britannique. Et c'est une décision que la Cour suprême avait imposée au gouvernement de Christy Clark. Rappelez-vous, cette décision concernait le nombre d'élèves par classe. Et la Cour avait donc imposé l'embauche de nouveaux enseignants au gouvernement de Christy Clark qui s'y opposait. Alors vous aurez les informations entourant cette situation dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Vancouver, le nombre de surdoses mortelles explose. C'est dans le journal Métro à l'adresse journalmétro.com. Le nombre de personnes mortes par surdose de drogue à Vancouver dépasse déjà le bilan total de l'année 2016. Selon les données dévoilées lundi par les autorités municipales, 232 personnes ont trouvé la mort à Vancouver depuis le début de 2017 en raison d'une surdose. L'an dernier, le bureau du coroner de la province avait recensé un total de 231 décès par surdose sur le territoire de Vancouver. Donc, ce chiffre est dorénavant dépassé. À partir de ces chiffres, les autorités municipales estiment que jusqu'à 400 personnes pourraient mourir de surdose cette année dans la ville. Le maire Gregor Robertson juge cette hausse absolument désolante, estimant que la décriminalisation de substances illicites et l'ajout de traitements par injection, comme l'héroïne sous contrôle médical, doivent être étudiés. Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, affirme que les premiers répondants ont dû prendre en charge en moyenne 135 appels par semaine pour des cas de surdose depuis le début de l'année. Un article aperçu pour vous en terminant dans le portail du Times Colonist. BC's record fire years sow seeds of severe future fires. Donc les incendies qu'on connaît actuellement en Colombie-Britannique, tous ces incendies records qu'on connaît cette année laissent entrevoir de nouvelles saisons d'incendies encore plus graves. C'est l'avis de différents scientifiques sur la question. Un article que signe le journaliste Randy Shore dans le portail du TimesColonist.com. L'un des scientifiques auteurs de cet avertissement interrogé dans le Times Colonist indique que les effets du changement climatique à l'échelle mondiale mènent à une plus grande mortalité des arbres en Colombie-Britannique. Et la sécheresse chronique qui sévit chaque été de plus en plus longtemps et de plus en plus fréquente, cette sécheresse va mener à de plus grandes mortalités au sein des forêts de l'Ouest canadien, ce qui relâche davantage de carbone dans l'atmosphère et les températures conséquemment vont monter. Il y aura un cycle donc d'effets qui vont entraîner de plus grands incendies de forêt et de plus nombreux feux de forêt par ailleurs. Vous aurez cet article fort intéressant dans le Times Colonist du jour, en date du 22 août, un article signé par le journaliste Randy Shore, je le rappelle, et je vous cite encore une fois le titre, « BC's record fire years sow seeds of severe future fires ». Voilà qui complète cette revue de presse nationale. Nous allons dans un instant retrouver un collaborateur de CILS FM, un chroniqueur, Adrien Blanc, qui avait à l'antenne de CILS jusqu'à récemment l'émission Rendez-vous ainsi que Jeune reporter. Il est de retour après un stage dans l'Est du côté de Montréal et il animera prochainement à l'antenne du 107.9 FM une nouvelle émission matinale. On va retrouver Adrien avec tous les détails dans quelques instants. Restez à l'écoute. retour à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief, édition des 22 et 23 août. Nous retrouvons un collaborateur que nous avions prêté au Québec et qui nous revient fort heureusement et qui sera à l'antenne très prochainement. Bonjour Adrien Blanc.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Ravi de te retrouver dans les nouveaux studios de CILS.
Ouais, ils sont magnifiques.
Dans Esquimalt, oui. Quelle est ta première impression?
Bien plus lumineux que ce que j'imaginais, parce que c'est dans la régie d'un théâtre, donc je m'attendais à une pièce un peu plus sombre. Et en fait, les lumières sont assez fortes. Il y a quand même une fenêtre qui a été ouverte pour l'occasion, donc je trouve qu'on voit quand même bien la lumière, et ça c'est toujours important quand on reste plusieurs heures à travailler ici.
Ah oui, alors rappelons à nos auditeurs que depuis très peu de temps, depuis quelques jours à peine, nous sommes désormais installés dans les locaux de l'école Victor Brodeur à Esquimalt. Notre antenne est toujours au même endroit, au sommet d'une tour à Hope Bay, et diffuse dans l'ensemble de la grande région de Victoria. Alors, l'élastique que nous avions attaché à Adrien a bien fonctionné, il est revenu à Victoria pour notre plus grand bonheur. Alors on va discuter de ce voyage qu'il a fait dans l'Est. Adrien, tu as effectué un stage journalistique, je crois.
Oui, voilà, c'était avec les offices jeunesse internationaux du Québec, qui sont des offices qui ont été créés juste après la fameuse phrase du général de Gaulle qui disait « Vive le Québec libre ». On se souvient de cette phrase, mais dans son discours, il disait aussi qu'il fallait renforcer les relations entre le Québec et les pays francophones. Et donc, les offices jeunesse internationaux du Québec sont là pour ça, pour renforcer ces liens. Donc, ils avaient fait venir un francophone du Canada, moi, mais il y avait aussi un Belge, David Delalois, et une franco-rwandaise, Monka Ngensimana, qui était là donc pour réaliser des reportages sur Montréal, présenter leur coup de cœur montréalais. Donc, on était ensemble une semaine dans les bureaux de Logique et on est sortis dans les rues de Montréal pour faire des reportages vidéo.
Magnifique. Donc, ça a donné lieu à combien de capsules en tout?
5 capsules, donc 5 vidéos, 2 coups de cœur sur Montréal et après 3 sujets sur Montréal Symphonique, qui est le grand orchestre symphonique qui a été diffusé la fin de semaine dernière sur Radio-Canada.
Alors, plusieurs membres de la diaspora montréalaise nous écoutent tous les jours. Plusieurs ex-montréalais sont à l'antenne. Comment as-tu trouvé cette ville?
J'ai été vraiment impressionné de voir Montréal l'été, parce que j'étais déjà allé à la fin d'hiver, en mars 2016. Et bon, j'avais trouvé que c'était une ville assez calme, belle mais calme. Et quand je suis retourné l'été, en fait, je ne reconnaissais plus rien. J'ai été dans des quartiers que je croyais n'avoir jamais visités. En fait, je les avais déjà vus. Sauf que là, en été, c'est tellement animé. Il y a tellement de monde dans les rues, tellement de choses qui se passent, de la musique, des spectacles, des petits festivals au coin d'une rue. Tous les commerces sont ouverts et sont très achalandés. Que vraiment, c'était un plaisir de se balader là-dedans. Et ce qui est surprenant, c'est justement de découvrir au coin d'une rue, quand on s'y attend pas, un petit café ou une petite boutique dans laquelle on a envie d'aller. Et puis, tout le monde est de bonne humeur, tout se fait à pied. C'était vraiment très, très agréable, quoi.
Montréal célèbre cette année son 375e anniversaire. Ça a été fondé en 1642. Est-ce que tu as senti que cet anniversaire ajoutait un petit supplément d'âme?
Ben oui, j'ai l'impression. Enfin, à chaque fois qu'il y avait un événement, c'était souvent estampillé 375e anniversaire. Après, je ne saurais pas dire si c'était fait spécialement pour le 375e, puisque c'est la première fois que j'allais à Montréal l'été. Mais en tout cas, ouais, le logo était bien présent. Je suis par exemple allé à des projections nocturnes sur une place qui était près de boulevard René Lévesque. Je ne saurais plus dire le nom, mais c'était très sympa, un film iranien. J'ai vu un petit festival près du village qui était sympa aussi. Donc ça se voyait, oui. Et puis le projet dans lequel j'étais impliqué avait été créé spécialement pour le 375e anniversaire de Montréal.
Il faut dire que tu logeais vraiment près du quartier latin, dans le village. Tu as pu vraiment sentir toute la latinité de la ville. Ouais. Certaines portions de ce secteur sont piétonnières, n'est-ce pas?
Oui, bah, toute la rue Sainte-Catherine, là où j'étais. Ça aussi, c'est vraiment agréable quand on cherche un restaurant. On n'a pas à prendre de voiture, on fait quelques pas et on trouve ce qu'on aime. Et puis même c'est sympa de voir les gens dans la rue. La journée des fiertés avait lieu là récemment, donc c'était vraiment à l'échelle nord-américaine cette fois, la journée des fiertés à Montréal. Donc c'était sympa de voir comment les gens étaient habillés, les panneaux qu'ils portaient, etc. C'était très vivant, oui.
Comment fait-on pour trouver les capsules que tu as co-réalisées avec tes partenaires de l'Office?
Alors, le mieux, c'est d'aller sur la chaîne YouTube sur Internet, sur le site Internet, et taper Logiq, L-O-J-I-Q. Vous arriverez sur la chaîne de Logiq et les 5 dernières vidéos, vous allez le voir, s'appelle « Coup de cœur montréalais » et ce sont les vidéos qu'on a réalisées. Dans certaines vidéos, j'apparais, dans d'autres, c'est moi qui ai tourné. Dans d'autres encore, c'est moi qui ai fait le montage. Enfin, à trois, on tournait en fait selon les rôles pour chacun laisser notre patte dans ces vidéos.
Logiq, qui évidemment est l'acronyme de cet organisme pan-francophone qui réunit différents acteurs de la francophonie. Magnifique. Et là, tu es de retour à Victoria et tu es prêt à entamer un nouveau projet ici même à CILS FM dans nos nouveaux locaux d'Esquimalt. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce que tu prépares aux auditeurs de CILS?
Oui, alors ça s'appelle la matinale qui vous engage. Donc c'est pas juste la matinale de CILS FM, c'est une matinale qui veut vous donner des solutions pour les problèmes du quotidien et des solutions durables.
Une matinale, on entend une émission matinale.
Voilà, une émission matinale. Donc c'est une émission qui aura lieu de 7h30 à 9h, qui sera en direct tout du long. Donc j'aurai le plaisir d'être animateur, mais il y aura aussi un chroniqueur par jour. Donc un chroniqueur culture ou un chroniqueur développement durable, je devrais dire plutôt une chroniqueuse, puisque ce sont deux chroniqueuses à chaque fois. Et donc ça sera Louise Alpin pour la chronique culture et Céline Bélanger pour la chronique développement durable.
Louise Alpin qui est bien connue des auditeurs de CILS FM, elle livre des émissions Histoire classique à l'antenne depuis quelques années déjà. Louise Alpin donc, et pour Madame Bélanger, c'est ça?
Céline Bélanger, alors je viens juste d'être informé que ça serait elle qui serait l'heureuse chroniqueuse de développement durable. Donc elle est enseignante de métier. Et là, elle a décidé de prendre une année, en fait, pour se consacrer vraiment à des sujets sur l'environnement. Et donc, ça tombe à pic qu'elle soit notre chroniqueuse, puisque c'est vraiment le sujet qui la passionne.
Donc, Madame Alpin et Madame Bélanger seront tes sidekicks, comme on dit en chinois. Donc, une émission live, est-ce que c'est un défi pour toi, du live le matin?
Oui, c'est un défi. Je l'avais déjà fait pendant 4 ans dans une radio locale en France. Mais j'étais plutôt présentateur des journaux, donc j'intervenais par moment dans la matinale. J'étais pas l'animateur de la matinale. Là, de 7h30 à 9h, je vais devoir vraiment être la personne qui accompagne les auditeurs tout au long de la matinée, le moment où ils prennent leur petit déjeuner, le moment où ils se brossent les dents, quand ils prennent la voiture. Donc c'est un gros défi parce qu'il faut continuer à les intéresser, il faut leur donner de la bonne humeur pour qu'ils aient envie de commencer la journée du bon pied. Et puis on va parler de sujets profonds, ça sera pas seulement l'actualité, ça sera donner des solutions, faire découvrir des nouvelles initiatives. Et donc parler de sujets de fond, ça veut dire qu'il faut être très clair, faut être amusant, je dirais presque, pour que ça soit intéressant. C'est pas de l'intellectuel, quoi. Faut vraiment qu'on voit l'application dans la vie de tous les jours et que, une fois arrivé au travail, devant la machine à café, on ait envie de parler aux collègues de ce qu'on a entendu sur CILS FM le matin.
Première émission, ça sera quand?
Ça sera le 5 septembre.
Le 5 septembre.
Puisque le 4 est férié.
Au retour de la fête du travail dans quelques jours. Donc, tu as encore du temps pour préparer ça un petit peu. Et on est ravis de te retrouver à l'antenne. On va bien sûr écouter ça en voiture, au travail, à la maison, etc. CILSFM.ca ou encore 107.9 FM. Adrien Blanc, fraîchement revenu d'un stage à Montréal. Merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt sur les ondes. Encore merci à notre invité du jour, Adrien Blanc, qui sera bientôt à la barre d'une émission matinale à l'antenne de CILS FM 107,9 au retour de la fête du travail. C'est déjà tout pour cette émission, édition des 22 et 23 août du débrief. Alexis Gagnon au micro. Je vous signale en terminant que le jazz que nous avons entendu dans cette édition provenait du plus récent album de François Jalbert, un artiste dont parlera justement Kevin Simonard, mon collègue Kevin, un connaisseur de la chose jazz qui anime l'émission Ce soir on jazz à l'antenne du 107.9 FM. Ce sera dans l'une des prochaines émissions. Kevin va approfondir ce nouvel album de François Jalbert et même interviewer l'artiste. Surveillez ça, c'est le vendredi à 22h ou encore le dimanche à 18h. Voilà, c'est tout. On se retrouve dans le prochain débrief, édition du 23 et du 24 août. Même heure, même fréquence. À très bientôt.
Vous écoutez CILS FM 107,9, la voix de votre communauté.
Désirez-vous être écrivain pour l'émission Histoire classique diffusée 3 fois par semaine? Écrivez-moi à louise@louisealepin.com sur les ondes de CILS FM.
Ici Léo.
Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria.
Dans l'éponge, dans les décombres de vos détails, j'étais Roxane. j'étais Roxane. Le regard ivre de mensonge, il me fallait pour survivre sur la longe. Le fil d'Ariane qui m'enfonçait dans l'éponge. J'en ai des cons de vos dédales. J'étais Roxane, j'étais Roxane, j'étais en le sur le cilia, plus le corps en équilibre dans les vapeurs d'ammoniac. J'étais démoniaque en fétus, c'est la peau qui vibre sous la pulsation cardiaque. J'étais démoniaque, flashback, les jumiers, la peau qui craque dans le verre qui pèle, le sang écarte. Flashback, les jumiers, la peau qui craque dans le verre qui fèle. Revenez. Chez vous, comme une maison qui a brûlé en votre absence. Écrire lettre après lettre, et le temps s'écoule, et la page tourne, et l'encre se répand. Mes idées se collent à ma folie, et glissent sur mes lèvres comme des paroles sans image, vidées de sens, vidées de sens. Pas d'histoire, ni de rancœur, je tourne la page, l'idée de mon. Nous n'étions que des enfants vivant du haut d'une tour, portant des messages de guerre et d'amour. Fragile, le cœur soit sur le cœur.
uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte.
Écoutez, CILS FM.
L'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fiche. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage !